Les années-lumière, édition du 27 décembre 2009. De AA, comme dans Année mondiale de l'astronomie, à CCCC, comme dans Conférence de Copenhague sur les changements climatiques, voici notre revue de l'année en sciences et en technologie. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Bienvenue donc à cette dernière édition de l'année. Bienvenue aussi à notre traditionnelle revue de l'année. Alors, nous avons sélectionné une bonne vingtaine d'événements ou de grands sujets qui ont été dans l'actualité en 2009. Nous allons vous les rappeler tout au long des deux prochaines heures. Mais je vais vous demander, mes très chers collègues, d'en choisir pour l'instant un et un seul. Sophie-André Blondin, je commence par vous.
S'il faut choisir, je prendrai le Festival des Canadiens en espace. Jamais n'y a-t-il eu autant de nos compatriotes en espace et pour aussi longtemps qu'en 2009.
Hugues de Roussan, pour vous?
J'ai un coup de cœur pour une empreinte de pied vieille de 1,5 million d'années. C'est la plus vieille empreinte d'un hominidé qui a adopté la marche debout.
Chantal Srivastava, votre événement ou votre sujet de l'année?
Une grande thématique incontournable, Yannick, et j'ai nommé le climat et peut-être surtout la surchauffe climatique qui ont marqué cette année 2009.
Quant à moi, bien, je vais abuser de mon privilège d'animateur. Je vais choisir deux événements. Darwin, bien sûr, puis la grippe H1N1. Tout ça, donc, et beaucoup plus au cours des deux belles heures de radio qui s'en viennent. Alors, 2009 est décrétée année mondiale de l'astronomie parce qu'elle marque les 400 ans des premières observations de Galilée à travers sa lunette astronomique. Les années-lumière partent donc sur la piste du père de l'astronomie moderne, ce cher Galilée. Sophie-André Blondin.
Oui, nous présentons une émission spéciale consacrée au passé, au présent et à l'avenir de l'observation astronomique. Et parmi les reportages présentés, nous partons à Padoue, où Galilée a enseigné, au Vatican, d'où il a été assigné à résidence pour ses positions héliocentriques, et à Florence, la ville qu'il a vue naître et mourir. Et c'est là, par exemple, à l'Observatoire d'Arcetri, que le passé et le présent de l'observation astronomique se conjuguent. Pour souligner l'année mondiale de l'astronomie, entre autres initiatives de l'Institut national d'optique appliquée, on utilise les mêmes lentilles que Galilée dans un télescope fidèlement reconstitué pour reproduire les premières observations de Galilée dans toute leur imprécision. Voici un extrait du reportage.
On a une vision directe de la maison de Galilée.
Le directeur Francesco Palla pointe ce qu'il reste au loin du passage de Galilée.
Juste devant nous. Et à côté, sur la droite, le bâtiment jaune long et tout ça, c'est le couvent où la fille de Galilée a aussi vécu.
Marie-Céleste.
C'était la fille préférée, en fait, la plus intelligente de deux. Et justement, maintenant, la rue s'appelle Suor Maria Via di Suor Maria Celeste.
Buonasera, buonasera Paolo.
Pendant ce temps, Paolo Stefanini assemble une réplique exacte du télescope, le Cannocchiale, que Galilée a pointé vers le ciel en 1609.
Justement, là, on est en train de, disons, pour refaire les mêmes observations de Galilée.
400 ans plus tard, les chercheurs veulent reproduire les observations originales de Galilée au sujet du relief de la Lune, des taches du Soleil, des satellites de Jupiter, des étoiles de la Voie lactée et des phases de Vénus.
Les deux verres sont exactement les mêmes, la même qualité optique. Le tube, c'est le même tube, la même longueur, le même diamètre. Et donc, la reproduction des observations est absolument pareille. La chose différente qu'on voit maintenant, parce qu'on vient d'installer une caméra CCD, on l'utilise pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut capturer et mémoriser les images, pour après les rendre disponibles à tout le monde.
À 4 siècles d'intervalle, le même instrument pointé vers le ciel permettra à tout le monde d'emprunter, le temps d'une image, l'œil de Galilée.
C'est ça le but du projet.
Alors Paolo vient d'installer un autre appareillage, c'est vraiment l'histoire et la modernité.
Et la modernité, voilà, c'est ça, exactement.
Télé Galileo.
Depuis l'observatoire astrophysique qui a été construit au 19e siècle, il faut descendre un étroit ruban de chemin flanqué de solides cyprès.
Il faut être bon conducteur.
Le directeur Francesco Pala nous emmène dans la villa que Galilée surnommait sa prison.
Sur le trottoir.
Là, maintenant, on ouvre le portail qui donne...
Vous avez les clés de la maison de Galilée?
Ah, la clé de la maison de Galilée. Et on ferme. Et donc, lui, il a toujours jugé cette maison comme si c'était sa prison. Et là, on rentre. Et ça, c'était la chambre où Galilée passait la plus grande partie de son temps. Il écrivait ses études, il faisait tout ça. Surtout sa correspondance, parce qu'il n'avait pas d'autres moyens. Cette pièce, elle est célèbre parce que justement, il y avait cette fenêtre qui donnait du côté sud. Et donc, juste en face de cette fenêtre, il y avait le couvent de Suor Maria Celeste. Et lui, il entretenait beaucoup de correspondances. Il était très attaché à sa fille, vice-versa.
C'est le fantôme.
Le fantôme de Galilée, qui aurait été un personnage vraiment incontournable tout au long de l'année 2009. Et on passe à un autre, tout aussi incontournable, le 12 février, journée Darwin. Aux quatre coins de la planète science, on célèbre le 200e anniversaire, jour pour jour, de la naissance du fameux naturaliste anglais Charles Darwin, l'homme de l'évolution. Et un peu plus tard, en 2009, le 24 novembre, on célébrera le 150e anniversaire, jour pour jour également, de la publication de son livre le plus célèbre, L'origine des espèces. Ce double anniversaire nous amène à vous proposer un dimanche avec Darwin, radio, télé, internet. Radio-Canada souligne l'événement avec toute l'attention qu'il mérite. Pourquoi tant d'égards? La réponse du biologiste et spécialiste de l'évolution Cyril Barrette de l'Université Laval au micro des années-lumière.
Si on pense à l'importance de Darwin encore aujourd'hui, si les théories de Darwin, si Darwin et ses théories d'évolution, ses trois théories principales concernaient seulement les autres animaux et les plantes, les truites, les érables, les castors, ce seraient déjà des théories extrêmement importantes, mais surtout à partir de son livre... Son premier livre important en 1859 et particulièrement le deuxième en 1871, on constate que les théories de Darwin, ça nous concerne nous directement et ça nous permet de répondre entre autres à trois des grandes questions existentielles. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Et pourquoi existons-nous?
C'est un bon programme.
Donc c'est déjà... Alors, et comme ces idées de Darwin sont encore tout à fait pertinentes aujourd'hui, c'est vraiment important de rappeler, si ces idées étaient maintenant complètement dépassées, il serait tombé dans l'oubli.
Parce qu'on va le voir effectivement tout au long de cette émission, Darwin, c'est très, très, très actuel.
Encore. Oui, Darwin, c'est pas seulement le passé.
La force de ce que dit Darwin dans l'origine des espèces, c'est parce que c'est une théorie forte. C'est quoi, Cyril Barrette?
Bien, c'est-à-dire que si on simplifie un peu, il y a deux grandes théories dans l'origine des espèces en 1859. Il y a la sélection naturelle, comme on a dit, qui explique comment l'évolution se fait, comment les adaptations se transforment, qu'est-ce qui fait que l'espèce est adaptée à son milieu. La deuxième théorie aussi importante qu'on oublie souvent, c'est la filiation commune, c'est-à-dire affirmer que les espèces ont des ancêtres. La vision de Darwin, c'est un arbre. Déjà en 1837, à 28 ans, un an après le retour du voyage du Beagle, dans son journal personnel, on voit un tout petit croquis qui est la première fois où Darwin exprime l'idée d'un arbre.
Arbre de la vie.
L'arbre de la vie, mais ce que ça nous indique, c'est que toutes les espèces ont des ancêtres. De la même façon que dans une espèce, tous les individus ont des parents.
Et est-ce qu'il dit déjà que toutes les espèces ont le même ancêtre?
Oui. Sa vision de l'arbre...
Il va déjà dire ça.
Il dit déjà que toutes les espèces sont apparentées, plus ou moins apparentées les unes avec les autres. Et si on remonte suffisamment loin, on partage un ancêtre commun. Et on est tous cousins.
Le biologiste Cyril Barrette, dans notre émission spéciale sur Darwin et le darwinisme, et aussi sur les avatars du darwinisme, le darwinisme social, la survie des plus aptes, l'eugénisme, et au XXe siècle même, le racisme et le nazisme. Des choses qui ne sont pas dans Darwin, rappelle notre historien des sciences Yves Gingras dans la même émission spéciale.
C'est normal que des travaux scientifiques donnent lieu ensuite à des dérives idéologiques, mais cela n'a rien à voir avec l'œuvre elle-même de Darwin lui-même. Et donc, ceux qui tentent cette relation-là, c'est des tentatives qui font partie d'une stratégie de dénigrement de Darwin, alors que lire Darwin, c'est un scientifique. Il n'y a pas eu de discours idéologique sur la société, comme on dit. Il s'occupait de ses plantes, il s'occupait de ses vers de terre, et c'est d'autres comme Spencer et bien d'autres, et son cousin Galton, qui va créer l'eugénisme, mais Darwin n'a rien à voir avec ça.
Alors, toujours très actuel, la théorie de l'évolution est devenue une science de l'évolution qui alimente, qui nourrit la biologie, bien sûr, mais aussi des disciplines aussi diverses que l'agriculture, la médecine ou la paléontologie. Solidement appuyé par de multiples observations, l'évolution n'en est pas moins toujours contestée par les créationnistes et par leurs cousins du dessin intelligent, sans lesquels la vie et sa diversité ne peuvent s'expliquer que par l'intervention d'un dieu, d'un être supérieur. Quoi qu'il en soit, et on l'aura bien vu tout au long de 2009, Charles Darwin reste d'une fascinante actualité scientifique. 200 ans après sa naissance, 150 ans après la publication de son livre qui s'intitulait « L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle » ou « La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie ». Et toujours en février, la chasse à la baleine retient encore une fois l'attention, une histoire qui refait régulièrement surface, Chantal, comme les baleines d'ailleurs, et ce même si depuis 1986, un moratoire mondial interdit la chasse à la baleine à des fins commerciales.
C'est que certains pays comme la Norvège, l'Islande et le Japon souhaitent depuis toujours, Yannick, la levée de ce moratoire. Mais encore une fois cette année, ils se font rappeler à l'ordre, tout d'abord par le Parlement européen, qui se prononce non seulement en faveur du moratoire, mais également pour l'arrêt de la chasse dite à des fins scientifiques. Ce qu'il faut savoir, Yannick, c'est que des scientifiques japonais, entre autres, disent qu'il faut chasser la baleine au nom de la science afin de mesurer l'impact des baleines sur l'effondrement des stocks de poissons. Sauf que ceux qui connaissent bien la biologie des cétacés savent que cet argument ne tient pas la route. Toujours en février, un article publié dans la revue Science réfute l'argument. La biologiste Lynn Morissette, spécialisée en écologie marine, a co-signé cet article. Elle est chercheure postdoctorale à l'ISMER, l'Institut des sciences de la mer, rattaché à l'Université du Québec à Rimouski.
Nos résultats démontrent clairement que les baleines ne sont pas en compétition pour les ressources marines. Et plus spécifiquement, il y a un des arguments qui est très important ici, c'est que là où cet argument-là est utilisé par les Japonais, c'est dans les eaux tropicales. Et les eaux tropicales, ça représente pour les baleines dont il est question ici, donc les baleines à fanon, dans les zones tropicales, elles se reproduisent. Et en période de reproduction, les baleines ne s'alimentent pas, ou très peu. Les études varient entre aucune alimentation et 10 % de ce qu'on mangerait en temps normal en période d'alimentation. Donc, c'est un peu aberrant et c'est pour ça qu'il n'y a aucune étude qui a jamais été faite avant la nôtre sur ça, parce que scientifiquement, les scientifiques s'entendent depuis longtemps à savoir que les baleines ne s'alimentent pas dans les zones tropicales.
Ça, c'est pour les zones tropicales. Et ailleurs, dans les zones plus froides, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre la consommation du poisson par les baleines et l'effondrement des stocks disponibles pour la pêche commerciale?
Bon, dans les zones d'alimentation, donc les eaux plus froides, comme dans le nord de l'Atlantique, par exemple, oui, les baleines s'alimentent. Et une autre étude sur laquelle j'ai travaillé, mais qui n'est pas encore publiée, démontre que même dans les zones d'alimentation, on n'a pas une relation directe entre... Quand on fait une simulation, par exemple, d'une diminution de l'abondance des baleines dans ces écosystèmes-là, les écosystèmes où les baleines s'alimentent, même dans les zones d'alimentation, on n'a pas nécessairement une augmentation de poissons parce qu'on a enlevé ces prédateurs de l'écosystème. Donc, ce n'est pas linéaire comme ça dans les écosystèmes.
La biologiste Lynn Morissette de l'ISMER, l'Institut des sciences de la mer à Rimouski, pour qui les baleines ne sont pas responsables de l'effondrement des stocks de poissons.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années-Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Et vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les années-lumière avec Yannick Villedieu.
Alors, nous poursuivons notre revue de l'année 2009. Après plusieurs décennies passées dans un certain anonymat, la Lune confirme son statut d'objet d'exploration et de découverte scientifique, Sophie André.
Oui, la science, on pourrait le dire, vit une seconde lune de miel avec notre satellite naturel, 40 ans après les premiers pas de l'homme sur sa surface empoussiérée. Déjà au début de l'année, plusieurs satellites tournent autour de la Lune pour l'observer, des sondes s'y écrasent et puis les données récoltées le confirment. La Lune nous réserve encore des surprises de taille. La sonde japonaise Kaguya, en orbite depuis 2007, s'écrasera comme prévu en juin. Lunar Reconnaissance Orbiter sera lancée le même mois. Et le plus grand sujet de découverte, c'est l'eau. Tout d'abord, il y aurait de l'eau partout sur la Lune. Sa surface n'est pas un désert si aride qu'on le croyait. Il y a de l'eau de toute petite quantité, de l'eau adsorbée d'après les informations conjuguées de trois sondes, dont l'indienne Chandrayaan. Attention, on est loin du bain de lune. L'eau détectée représente 0,5 % de la masse des premiers millimètres de la surface lunaire. À titre comparatif, le désert de l'Atacama sur Terre au Chili, l'endroit le plus aride de notre planète, présente un taux d'humidité de 10 %. Olivier Groussin, du laboratoire d'astrophysique de Marseille, fait partie des chercheurs qui font part de cette découverte dans la revue Science.
Alors, c'est de l'eau qui est sous forme adsorbée, avec un D, comme Daniel. Et cette eau, ça veut dire qu'en fait, elle est accrochée donc aux minéraux lunaires en surface. Donc, c'est vraiment un phénomène de surface. Il faut imaginer donc les molécules d'eau H2O qui sont donc en contact avec les minéraux lunaires. Mais elle n'est pas à l'intérieur des minéraux lunaires. Elle est vraiment en surface, attachée à ces minéraux.
Et elle vient d'où cette eau ?
Alors, l'idée actuelle, c'est donc à prendre évidemment avec précaution, mais notre interprétation, c'est que l'eau, elle serait formée aujourd'hui. Donc, ça n'a rien à voir avec l'eau qui daterait donc sur de la formation de la Lune, mais c'est de l'eau qui serait formée aujourd'hui par interaction donc entre le vent solaire, et notamment les ions hydrogène H+ du vent solaire, et les minéraux lunaires qui sont riches en oxygène. Donc avec les ions hydrogène du vent solaire et donc les atomes oxygène des minéraux lunaires, on arrive à former les molécules H2O d'eau.
Olivier Groussin, donc, qui explique les premières découvertes de H2O d'eau donc, sur la Lune. Mais, Sophie André, ce n'est qu'un début.
Oui, l'écrasement de la sonde L-Cross apportera plus tard de l'eau au moulin. Pourtant, quand la fusée de 2 tonnes percute le fond d'un cratère au pôle de la Lune, l'impact est moins spectaculaire que ce que plusieurs escomptaient, le panache de débris moins impressionnant que prévu. Depuis le sommet du Mauna Kea, l'astronome Marie Lemoine Busserolle et ses collègues du télescope Gemini Nord passent la nuit à scruter le cratère d'impact dans l'infrarouge.
On n'a pas vu directement, puisque nos observations étaient dans l'infrarouge. On a pris des données de l'imagerie et de la spectroscopie dans les différentes bandes de l'infrarouge proche à l'infrarouge lointain. Et le but donc, de ce qu'on a fait était de pouvoir détecter si dans les débris qui étaient soulevés, s'il y avait de la glace, s'il y avait des hydrocarbures et d'autres composés organiques, et si aussi dans la partie qui était, si vous voulez, illuminée par le soleil, on pense que s'il y avait de la glace, donc l'eau s'est vaporisée et on pouvait dans ce cas-là détecter la signature, si vous voulez, spectroscopique de la vapeur d'eau.
L'astronome Marie Lemoine Busserolle en entrevue aux années-lumière après sa nuit d'observation de l'impact de L-Cross sur la Lune. Alors plus tard dans l'année, on confirmera justement avoir perçu cette signature de l'eau.
En novembre, les chercheurs de la NASA sont formels et sont très enthousiastes. On a détecté de l'eau dans le panache de débris qui a suivi l'impact de L-Cross. L'avenir de l'exploration lunaire s'éclaire un peu, analyse Bernard Foin à notre micro. Bernard Foin est de l'Agence spatiale européenne.
Ça peut être intéressant pour l'exploration future. Nous pourrions exploiter ceci pour aider au début au développement d'un poste avancé humain ou d'une base lunaire internationale où nous pourrions donc emprunter pendant quelques temps les ressources en eau en addition des ressources minérales qui peuvent être extraites du sol lunaire.
Bernard Foin de l'Agence spatiale européenne qui concluait donc cette belle année sur la Lune. Et on revient sur la Terre où le 27 février apparaît à la une du magazine Science la photo d'une empreinte de pas vieille de 1,5 million d'années. Hugues de Roussan.
Cette empreinte, Yannick, c'est celle d'un hominidé qui a adopté la marche debout sur deux pieds. Elle provient d'un de nos lointains ancêtres, un Homo ergaster, une espèce particulière d'Homo erectus ancien. Elle a été trouvée au Kenya par une équipe américano-kenyenne. Yannick, ce n'est pas la plus vieille empreinte de pas connue venant d'un bipède. On en a trouvé de plus anciennes en Tanzanie, mais ce n'était pas encore des empreintes laissées par le pied d'un homme moderne. Le gros orteil était opposable et il n'y avait pas de voûte plantaire. Ce qui n'est pas le cas pour celles trouvées au Kenya, qui, elles, ont des caractéristiques quasi modernes. Michel Drapeau est paléo-anthropologue au département d'anthropologie de l'Université de Montréal.
C'est un pied, effectivement, qui a clairement là, les traits marquants du pied humain moderne. Donc, le gros orteil qui est vraiment en ligne avec les autres orteils. Pas d'opposition du gros orteil avec les autres orteils. Un arche plantaire bien marqué qui sert d'absorbeur de choc lors de la démarche et aussi qui permet aussi au pied d'être rigide jusqu'à un certain point et de servir de levier lorsqu'on on donne la dernière poussée quand notre gros orteil laisse le sol, si on veut, c'est comme la dernière poussée. Notre pied sert de levier, si on veut, parce qu'il est une structure rigide qui ne plie pas complètement. Tandis que le pied des grands singes, par exemple, va plier. C'est-à-dire, eux, quand ils donnent une poussée avec leur pied, bien, le pied se plie en l'envers, si on veut, là, à l'opposé là, de la flexion des orteils, mais au milieu. Et donc, ont moins, si on veut, leur levier pour donner une poussée est moins bon. Donc, ils peuvent moins pousser fort. Tandis qu'un pied humain est beaucoup plus rigide. Donc, quand on pousse avec le gros orteil, notre pied ne plie pas en l'envers, il reste rigide. Donc, on a une espèce de levier qu'on sert pour se propulser vers l'avant lorsqu'on marche.
Ce pied ionique déjà moderne permet à l'Homo erectus de marcher plus longtemps en dépensant moins d'énergie, ce qui lui donne un avantage compétitif sur les autres espèces dominidées de son époque, sans toutefois être décisif. Cependant, l'apparition de ce pied droit est un des facteurs qui lui permet de quitter l'Afrique et de coloniser l'Asie et l'Europe.
Et toujours dans le même domaine, la revue Science, encore elle, va publier le 2 octobre une édition spéciale portant sur le plus ancien squelette d'un hominidé jamais découvert.
Il est découvert en Éthiopie. Il s'agit du squelette incomplet d'une femelle qui n'est pas très grande, 1,20 m, plutôt poilue, avec des bras longs et un gros orteil opposable. C'est un bipède qui se déplace habilement dans les arbres. Et pas jeune, 4 400 000 ans, soit 1 million d'années de plus que l'Australopithèque Lucy. Science a servi le traitement royal à cette représentante de l'espèce Ardipithecus ramidus en lui consacrant pas moins de 11 articles et en lui donnant un nom, Hardy, confirmant ainsi son statut de vedette. Hardy est même nommée découverte de l'année par la revue Science. Cette découverte peut remettre en question l'idée qu'on se faisait de l'évolution de l'homme. Ainsi, nos ancêtres qui vivaient dans les arbres sont devenus bipèdes au sol sans passer par l'étape intermédiaire, étape qui consiste à se déplacer en se balançant aux branches comme le faisaient les chimpanzés. Ce qui voudrait dire aussi que l'être humain s'est séparé des grands singes plutôt qu'on ne le pense, et qu'il faut remonter encore plus loin dans le temps pour trouver un ancêtre commun.
Et toujours début octobre, une nouvelle fait le tour des médias. Des chercheurs français ont découvert des empreintes de pas d'un dinosaure aux proportions gigantesques qui vivait dans ce qui est aujourd'hui le Jura en France il y a 150 millions d'années.
Il s'agit, Yannick, d'un sauropode, un herbivore de 25 mètres de longueur qui pèse plus de 30 tonnes et dont les empreintes de pas ont près de 1,50 m de diamètre. Et ce sont les plus grosses empreintes jamais découvertes. Et il y en a des dizaines et les pistes qu'elles forment s'étirent sur des centaines de mètres. Jean-Michel Mazin est paléontologue à l'Université Claude Bernard à Lyon. Il entend étudier ces empreintes et il a l'intention de s'en donner à cœur joie.
Si on ne trouve qu'une seule empreinte de pied ou de main, déjà, on est très circonspect. Hein. On se dit que ça peut être un accident de la nature. Mais lorsqu'on trouve des empreintes alignées les unes derrière les autres, des empreintes de pas, on peut suivre l'animal sur une certaine distance. Et comme là, le site est immense, il fait plus de 10 hectares, on va pouvoir suivre ces animaux sur peut-être des dizaines ou voire des centaines de mètres. Et ainsi, voir comment ils ont marché, on peut arriver à décrypter leur cycle de locomotion d'après les pistes. De même que si on suit la piste d'un homme, eh bien, rien qu'à partir de sa piste, en prenant des mesures, on peut évaluer la taille de l'individu, on peut évaluer sa vitesse, on peut savoir comment il marchait, etc. Et là, on a des bêtes à quatre pattes.
C'était Jean-Michel Mazin, qui est paléontologue à l'Université Claude Bernard à Lyon. En France. 9 mars, décision remarquée du président Barack Obama qui lève l'interdiction de financer la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines avec des fonds provenant du gouvernement fédéral américain. Cette interdiction avait été imposée le 9 août 2001 par le prédécesseur de Barack Obama, George W. Bush, mais elle ne touchait ni le secteur privé ni les gouvernements des États, il faut bien le préciser. Quoi qu'il en soit, les milieux de la recherche accueillent fort bien cette décision et le message pro-science qu'elle envoie. Explication et commentaire recueillis au lendemain de cette annonce du docteur Jacques Galipeau, qui est oncologue à l'Hôpital général juif de Montréal et directeur de la thématique thérapeutique du réseau canadien des cellules souches. Le docteur Galipeau note que cette décision, donc la décision de Barack Obama, est bienvenue évidemment, même si elle arrive peut-être, d'un point de vue scientifique et médical, un peu tardivement.
Il y a plusieurs centaines d'études cliniques de par le monde, légitimes, au Canada, aux États-Unis, en Europe, qui examinent l'utilisation de cellules souches. Virtuellement aucune d'entre elles utilise des cellules souches embryonnaires.
Aucune. Alors, qu'est-ce qu'on utilise?
Des cellules souches dérivées d'adultes, soit de la moelle, soit de la moelle osseuse, soit du sang de cordon. Ce sont grosso modo les sources principales. Mais il faut faire gaffe. Il se peut que les cellules souches embryonnaires aient des propriétés intrinsèques qu'on n'a pas encore tout à fait déchiffrées, qui feront qu'au bout de la ligne, ça pourrait être un outil plus intéressant pour le traitement des blessures de la moelle épinière, par exemple. Il y a encore beaucoup de recherches à faire.
Je reviens à la décision du gouvernement Obama de cette semaine. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la recherche au Canada?
Absolument oui. Et l'espoir que nous avons ici, c'est va être l'effet d'entrée. Car voyez-vous, en levant l'interdit sur les cellules souches embryonnaires, c'est un petit peu la pointe de l'iceberg. Obama, le message qu'il donne, c'est que l'économie du savoir, c'est réellement là que se trouvent les pistes de solutions à long terme dans un contexte de mondialisation. Et le gouvernement Obama a fait un choix très intéressant. Malgré toutes les difficultés économiques que tout le monde connaît aux États-Unis plus particulièrement, le budget du NIH en 2008 était de 29,6 milliards US. Et en 2009, ils ont choisi de l'augmenter de 25 % à 39,9 milliards US.
39 milliards de dollars américains au NIH, donc qui est l'organisme qui subventionne, qui finance la recherche dans le domaine de la santé. C'est beaucoup.
Oui, le pendant canadien du NIH, c'est les IRSC, l'Institut de recherche en santé du Canada, qui en 2008 a dépensé 963 millions canadiens. On peut faire un petit ratio mathématique très rapide. Pour chaque dollar qu'un Canadien, le gouvernement fédéral canadien dépense en recherche, le gouvernement fédéral américain va en dépenser 50.
50 dollars aux États-Unis, 1 dollar au Canada. C'était le docteur Jacques Galipeau qui est oncologue et spécialiste des cellules souches. Les années-lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, la suite de notre revue de l'année en sciences et en technologie, les Canadiens dans l'espace, la pandémie de grippe, la voiture électrique, la science du climat au-delà de Copenhague et plus encore. Tout au long de cette année 2009, le sort des chauves-souris, charmants petits mammifères, retient l'attention des biologistes qui s'inquiètent des ravages d'une mystérieuse maladie, le syndrome du museau blanc. Chantal, ça vous inquiétez vous aussi?
La situation est très inquiétante, Yannick, parce que depuis 2006, pas moins d'un million de chauves-souris sont décédées aux États-Unis après avoir été vraisemblablement infectées par un champignon qui blanchit leur museau lorsqu'elles hibernent dans des grottes ou dans des mines désaffectées. La maladie s'est déclarée tout d'abord dans l'État de New York et depuis, elle se répand comme une traînée de poudre et tue 90 % des chauves-souris contaminées. Pour le moment, le Canada n'est pas encore touché, mais comme ce champignon adore le froid, ce n'est, semble-t-il, qu'une question de temps. Au printemps, le biologiste Richard Brunet de la firme Envirotel fait une tournée des hibernacles pour le compte du ministère québécois des Ressources naturelles et de la faune. Nous l'accompagnons en bateau dans une mine désaffectée en Estrie.
Vous savez, j'espère pas en trouver. Vous voyez juste là, dans le milieu du rond, j'éclaire.
Qu'est-ce que vous faites?
Je m'aperçois qu'il y a un point blanc dans l'oreille, puis je vais essayer de me voir plus proche, c'est quoi.
Donc, vous mettez des gants, vous prenez un petit sac, c'est ça?
Ouais.
Sur le dos aussi, on dirait qu'il y a un petit peu de blanc quand on regarde.
Oui, ça fait de la saleté, ça. C'est pas ça qui me fatigue le plus. Ce qui m'attire plus mon attention pour l'instant, c'est les points blancs dans l'oreille.
On va se réveiller tout de suite. Je sais pas si c'était juste une grichenoute, ça. Là, c'est une nordique.
Puis le petit point blanc, c'était rien.
C'était une graine, probablement. De...
On sait que c'est un champignon qui vient du nord, qui pousse dans une zone froide, entre 5 et 9 degrés Celsius. C'est à peu près la température qu'on a à l'intérieur ici. C'est souvent un profiteur. Donc, il y a quelque chose d'autre qui influence l'état de santé de l'animal. Et pour l'instant, on n'est pas en mesure de rien dire. Moi, le premier travail que j'ai à faire, c'est de trouver les individus moribonds. Oui, c'est évident quand on touche, ils vont bien. Là. Okay, ça, elles sont petites, mais elles sont, pour l'état actuel des choses, c'est tout à fait normal dans le groupe. Elle avait une poussière blanche là sur un oreille. Bon.
En avez-vous déjà vu, M. Brunet, des chauves-souris atteintes du syndrome?
Moi, je suis allé aux États-Unis en voir. Descendu là-bas pour aller voir ça, c'est impressionnant. En fait, c'est catastrophique quand tu vois ça. Quand tu travailles là-dessus, c'est pas le fun du tout. Une maladie qu'on ne sait pas d'où elle vient ni qu'est-ce qu'elle fait, ça en est dissimulé rapidement. Et c'est très rapide. Qu'est-ce qui va se passer en population? On ne sait pas. C'est inquiétant.
C'était Richard Brunet, qui est biologiste chez EnviroTel et qui est très heureux de ne pas avoir trouvé de chauve-souris atteinte du syndrome du museau blanc dans cette mine désaffectée de l'Estrie. Médecine maintenant. La nouvelle est tout à fait étonnante et pourtant elle est vraie. Elle est publiée par le New England Journal of Medicine et nous vient d'Allemagne où une équipe de l'hôpital universitaire Charité à Berlin semble avoir réussi à guérir, je dis bien à guérir, un patient atteint de sida. Un homme dans le début de la quarantaine, séropositif depuis 10 ans et sous traitement, sous trithérapie depuis 4 ans. Alors en plus du sida, ce patient est un jour atteint de leucémie. On doit donc lui faire une greffe de moelle osseuse. Et les médecins allemands ont la bonne idée de chercher un donneur de moelle qui est non seulement compatible avec leur patient pour la greffe, mais qui, en plus, porte une mutation génétique rare, connue pour conférer une résistance naturelle au virus du sida. Alors ils trouvent le donneur en question après une recherche à l'échelle mondiale et ils procèdent à la transplantation, raconte un des médecins de l'équipe allemande, la docteure Suzanne Ganepola.
La transplantation, c'était en 2006. Alors depuis 7 jours, il avait une reconstitution normale. Et depuis ce jour, on a aussi arrêté tous les médicaments, tous les traitements concernant le VIH. Et après la reconstitution, il n'y avait plus besoin des médicaments du VIH qui sont très, très forts et aussi beaucoup des effets qu'on ne veut pas. Et aussi, il n'y a pas de problème. On a regardé dans le sang, dans le moelle osseuse, dans le système gastro-intestinal et aussi dans le cérébrum et on n'a jamais trouvé le virus, qu'est-ce qu'on a essayé de trouver, chercher. Et il n'y a aussi pas de médicaments jusqu'à aujourd'hui.
Alors bien sûr, le patient n'est peut-être pas vraiment guéri de son infection, peut-être que le virus se cache profondément dans son organisme, mais il est, c'est le moins qu'on puisse dire, en rémission très prolongée. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce traitement, une greffe de moelle osseuse contre la leucémie, ne peut pas devenir un traitement de routine, évidemment. Néanmoins, la nouvelle suscite de l'espoir, souligne le docteur Régent Thomas de la clinique L'Actuelle à Montréal.
Où est-ce que ça nous mènera, je ne sais pas. Puis est-ce que ça sera dans 1 an ou dans 10 ans, je ne sais pas. Mais je pense qu'on revient au discours qu'on avait complètement abandonné depuis 10 ans. Quand Dr. David Ho, je ne sais pas si vous vous souvenez, a été nommé personnalité du Time parce qu'il parlait d'éradiquer le virus.
C'était en 96 quand on a annoncé la trithérapie.
Oui.
Hein?
Et après, on a eu des déceptions parce qu'on a vu que la trithérapie n'éradiquait pas le virus. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'en plus d'avoir, qu'on semble peut-être pouvoir éradiquer le virus par son propre système immunitaire. Il n'y a plus de médicaments, ce patient-là, c'est la différence. Alors, on revient à cette idée qui nous était, je dirais qu'on avait un peu perdu, à cet espoir qu'on avait un peu perdu, que peut-être qu'un jour, on pourra guérir le sida.
Guérir le sida, effectivement, un rêve. Alors, c'était le docteur Régent Thomas, spécialiste du sida à la clinique L'Actuelle à Montréal. Avril, un article de la revue Science fait état d'une découverte réalisée par des chercheurs de l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique à Varennes, près de Montréal. Des chercheurs qui ont mis au point un nouveau catalyseur à base de fer. Une découverte qui pourrait être, Hugues de Roussan, très importante pour une industrie automobile en pleine mutation.
Oui, Yannick, les catalyseurs, on les retrouve dans les piles à combustible et ce sont des éléments importants car sans eux, les piles sont moins efficaces et moins puissantes. Or, les piles à combustible alimentées à l'hydrogène pourraient éventuellement remplacer les moteurs à explosion dans les voitures électriques hybrides de demain. En tout cas, certains le pensent, d'où l'importance de la découverte. En ce moment, les catalyseurs sont faits à base de platine. C'est un métal rare, cher, et remplacer le platine par du fer résoudrait ce problème de rareté et ferait baisser les prix. Mais avant d'en arriver là, Yannick, il reste encore du travail à faire. Les catalyseurs à base de fer fonctionnent bien, mais ils ne sont pas encore aussi efficaces et performants que les catalyseurs à base de platine. Jean-Paul Dodelet est professeur à l'INRS Énergie, Matériaux et Communications.
Et il marche bien, c'est-à-dire qu'on parvient à avoir, dans les faibles puissances, l'équivalent de ce que le platine peut donner. C'est seulement quand on va vers les plus grandes puissances qu'on a un problème à résoudre, c'est le problème de transport de masse de l'oxygène vers les sites catalytiques. On a aussi un problème à résoudre qui est le problème de stabilité de la pile. Ça, on ne l'a pas encore résolu, dans le sens que notre catalyseur n'est pas encore stable dans le temps. Il décroît, par exemple, sous hydrogène et air, on a une décroissance sur 100 heures d'à peu près 40%. Alors ça, il nous faut résoudre parce que pour que un système puisse être utilisé de façon industrielle, il faut, dans le cas des piles à combustible, d'après le Department of Energy des États-Unis, il faut une durabilité de 5000 heures. Et donc ça, tant qu'on n'a pas 5000 heures, on n'a pas un vrai catalyseur.
Et actuellement, en termes d'heures, vous dites qu'il y a une décroissance de 40%, ça veut
sur
dire...
Sur 100 heures.
Sur 100 heures.
Ça veut dire que notre courant décroît de la valeur initiale, qui est toute proche de ce que le platine peut donner. Elle décroît de 40% sur 100 heures. Donc ça, nous avons ce problème-là à résoudre. Mais le premier problème qu'on a résolu, c'est le problème d'activité. Et donc nous sommes parvenus à avoir l'activité du platine dans les faibles puissances.
Jean-Paul Dodelet est professeur à l'INRS Énergie, Matériaux et Communications.
Yannick, les piles à combustible avec des catalyseurs de fer pourraient avoir un bel avenir devant eux. Les réserves mondiales de platine sont limitées, au plus 40 000 tonnes. Donc, si on parvient à régler le problème de la production et de la distribution de l'hydrogène, la demande pour les piles à combustion pourrait exploser au cours des prochaines années dans l'industrie automobile. D'autres secteurs, d'ailleurs, de l'économie pourraient aussi contribuer à faire pression sur la demande, comme les ordinateurs portables et les téléphones. Juste rappeler que le catalyseur à base de fer pour piles à combustible est sur la liste des 100 meilleures découvertes de l'année du magazine scientifique et de vulgarisation Discover.
Merci Hugues. Alors la ronde découverte d'exoplanètes, hein, ces planètes qui gravitent autour d'étoiles autres que la nôtre, eh bien cette ronde de découverte se poursuit en 2009, Sophie André.
Oui, le catalogue de ces exoplanètes se garnit encore avec les découvertes de 2009. On en dénombrera plus de 400 à la fin de l'année. Il faut ajouter par exemple la plus petite exoplanète jamais détectée, une des quatre planètes qu'on aperçoit autour de l'étoile Gliese 581 qui est située à une vingtaine d'années-lumière de notre Soleil. Cette petite dernière fait moins de deux fois la masse de la Terre. On la nomme E, comme la lettre. L'équipe qui l'observe est menée par Michel Mayor de l'Observatoire de Genève, qui est le père de ce genre de découverte.
Ça se passe dans un contexte où on est en train de découvrir une multitude de systèmes planétaires avec des petits objets très proches des étoiles. Donc ça nous dit énormément de choses quant au mécanisme de formation des systèmes planétaires. Alors si on parle maintenant de la petite E, la petite dernière, eh bien elle est très près de son étoile. Elle tourne un peu plus de trois jours autour de l'étoile. Donc autant dire qu'elle est près de l'étoile. Donc sa température est élevée. Comme la masse n'est pas très grande, il n'y a certainement pas la place pour beaucoup d'une grande atmosphère. Et donc probablement un gros rocher.
Et vous parlez d'une température élevée, à quoi est-ce qu'on peut la comparer par rapport à les planètes qu'on connaît mieux, par exemple?
Ah, c'est quelques centaines de degrés. C'est pas énorme, parce que il faut voir que l'étoile centrale, c'est une étoile qui est à peu près trois fois plus légère que le Soleil. Donc, c'est un réacteur nucléaire très peu efficace, qui émet peut-être 100 fois moins de luminosité que le Soleil. Et donc, la température est beaucoup moins catastrophique que si c'était une planète qui tourne autour du Soleil à une telle distance.
Mais quand même trop catastrophique pour abriter la vie.
Totalement, totalement.
Est-ce qu'elle pourrait perdre son titre de toute petite dernière assez rapidement? Est-ce qu'on risque d'en trouver des plus petites encore?
Oui, bien sûr. C'est pas un risque, c'est une possibilité. C'est-à-dire qu'actuellement, les instruments que l'on a permettent, je ne veux pas dire aisément, mais permettent de découvrir des planètes plus petites. On n'est pas du tout à la limite de ce que l'on peut faire avec le tel objet qu'on vient d'annoncer.
Michel Mayor qui nous en parlait de cette planète E, mais toujours dans le système planétaire autour de Gliese 581, les observations permettent de réviser la période orbitale d'une autre planète, D, et sa nouvelle position dans ce système planétaire la place en pleine zone habitable. Coup d'éclat, affirme à notre micro René Doyon de l'Université de Montréal.
C'est un coup d'éclat. Écoutez, c'est à cause de leur instrument, l'instrument ARPS, qui est de loin le meilleur pour l'instant. C'est assez exceptionnel comme exploit. Donc ça, c'est le premier aspect important de la découverte. Et l'autre, qui nous permet de réviser la période orbitale de D, qui a une période maintenant de 67 jours, et qui la place très nettement dans la zone habitable. Donc, alors ou bien on a affaire à une planète qui est peut-être un océan liquide à la surface, ou peut-être même que des lunes autour, où est-ce qu'il y a des rivières et des lacs. Là. Donc c'est absolument fascinant d'imaginer qu'on a maintenant des systèmes qu'on peut pointer dans le ciel où est-ce qu'il y a peut-être de l'eau liquide. Là.
C'était René Doyon de l'Université de Montréal.
Et plus tard dans l'année, la même équipe, celle menée par Michel Mayor, marque un autre grand coup, toujours grâce au spectrographe HARPS. Elle présente 32 nouvelles exoplanètes en une fois à la communauté scientifique.
Merci Sophie André. Et c'est la fin de notre première heure ce soir à la télé de Radio-Canada, 18h30. Ne manquez pas Découverte, troisième épisode sur six de la série La Chine sauvage, une coproduction BBC, CTV, Travel Channel. Ce soir, le Tibet. Mais d'ici là, vous restez scotché à votre radio ou à votre ordinateur. Après les nouvelles, la deuxième partie de notre revue de l'année en sciences et en technologie. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour Yannick Villedieu, toujours à l'équipe pour vous présenter la suite de notre revue de l'année en sciences et en technologie. Dans cette deuxième heure, nous allons aller dans l'espace, nous faire vacciner si ce n'est déjà fait. Nous allons brancher notre voiture, nous inquiéter pour l'avenir du climat de la planète et pour l'avenir de la planète elle-même. Bref, calez-vous bien dans vos fauteuils, ça décolle. Et oui, ça décolle, parce que 2009 est une année faste pour les Canadiens dans l'espace, se fait André Blondin.
Oui, il y a eu de l'action, des nouveaux et plein de premières. Tout d'abord, l'Agence spatiale canadienne avait commencé l'année en pleine campagne de recrutement pour trouver de nouveaux astronautes parmi 5351 candidats. Le Montréalais David Saint-Jacques, un médecin de 39 ans, et l'Ontarien Jeremy Hansen sont finalement retenus.
Les astronautes canadiens, en plus, vont vivre quelques belles premières en 2009.
Oui, fin mai, après 3 années d'entraînement, Robert Thirsk quitte la Terre pour une mission de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. La station accueille alors un équipage complet de 6 personnes pour la première fois. Premier Canadien à quitter la Terre à bord d'un véhicule russe Soyouz. Il est aussi le premier Canadien à faire un séjour prolongé en espace. Il devient par ailleurs le premier astronaute à prendre en espace un médicament qui vise à diminuer la perte osseuse qui est liée au séjour prolongé en apesanteur. Et puis, mi-juillet, après 5 faux départs, l'astronaute Julie Payette prend place dans la navette spatiale Endeavour pour une mission de 16 jours comme ingénieure de bord. Pendant son entraînement au Centre spatial Johnson à Houston, elle nous avait fait visiter la maquette d'entraînement de sa navette.
Alors, on est dans le poste de pilotage de la navette spatiale. Sur le cockpit avant, il y a 1800 interrupteurs, cadrans, boutons, circuit breakers et le reste. Il y a le siège du pilote, le siège du commandant qui sont en avant, à gauche et à droite. Et derrière eux, dans le plein milieu, il y a le siège de l'ingénieur de bord. Donc mon siège, il serait ici. Je serais assise donc dans le plein milieu ici.
D'après vous, en tout cas, c'est le meilleur siège à bord.
Ben là, maintenant, vous pouvez le constater. On est en plein centre du cockpit. On voit tout. C'est une vue panoramique. Et évidemment, aussi, on a vraiment une bonne compréhension de tout ce qui se passe. On ne peut rien manquer. Alors, c'est sûr que c'est un bon siège.
L'astronaute Julie Payette à l'entraînement à Houston, elle a peut-être le meilleur siège à bord, hein, Julie, mais elle a quand même peu de temps pour s'y asseoir.
La charge de travail est grande. L'astronaute canadienne manipule les 3 bras robotisés pour s'acquitter de ses tâches lors de sa mission. Mais l'arrivée de Julie Payette dans la Station spatiale internationale permet aussi une autre première. 2 Canadiens se rencontrent dans l'espace pour la première fois. L'événement « La rencontre de 2 Canadiens » va se répéter dans l'année. Le 30 septembre, le touriste spatial Guy Laliberté part rejoindre la station spatiale et son équipage. Le cofondateur du Cirque du Soleil devient le premier touriste spatial canadien. À son retour, il devient le premier Canadien à revenir sur Terre dans une capsule Soyouz. Mais début décembre, c'est au tour de Robert Thirsk. L'astronaute revient après 6 mois. Il termine lui aussi sa mission dans l'espace, dans une plaine du Kazakhstan. 2 jours plus tard, il partage ses impressions avec nous depuis la Russie.
Imaginez-vous entassé dans une Beetle de Volkswagen et sur le dos d'un cheval de rodeo ou sur les rails d'une montagne russe pendant un spectacle de laser et lumière. Tout cela en même temps. Multipliez tous ces effets par 10 et c'est comme les dernières 20 minutes pendant l'atterrissage de Soyouz.
Alors, c'est assez intense. Et une fois que vous êtes arrivé, dans quel état physique et psychologique étiez-vous?
Maintenant, je sens forte, mais les premières heures après l'atterrissage, je me sentais faible et j'ai expérimenté beaucoup d'étourdissement. C'est difficile de marcher. J'ai eu l'impression que les personnes bougent le plafond, mais maintenant, l'étourdissement est diminué. et je sens fort.
Vous avez l'expérience des deux types de séjours en espace, de plus courte durée et de plus longue durée. Est-ce que le temps, est-ce que la durée est un facteur important dans le nombre et l'intensité des effets physiologiques de l'apesanteur?
Absolument. Pendant une mission de courte durée, les effets sont principalement les systèmes cardiovasculaires, les systèmes vestibulaires. Mais pour les missions de longue durée, les effets principaux sont contre les systèmes muscles et les os. Et aussi, bien sûr, les effets psychologiques. La dernière chose pendant une mission de longue durée, c'est les effets de rayonnement.
C'était donc l'astronaute canadien Robert Thirsk de retour après six mois en orbite dans la station spatiale. Alors, l'une des plus grandes vedettes de l'année 2009 aura incontestablement été un virus. Un virus apparu au début de mars au Mexique, dans le sud des États-Unis, et qui se répand tellement vite que 3 mois plus tard, le 11 juin, l'Organisation mondiale de la santé lance une alerte à la pandémie qui ne laissera personne indifférent. Ce virus, c'est bien sûr le désormais célèbre virus de la grippe AH1N1, une souche nouvelle qui comporte des gènes humains, porcins et aviaires. Et même si les premiers cas ne semblent pas très graves, on se méfie de ce nouveau virus pour au moins deux raisons. D'abord, comme tout nouveau virus de la grippe, il peut se révéler dans les semaines ou les mois à venir, bien plus virulent qu'on ne le croit au départ. Ensuite, il lui arrive quand même d'être extrêmement agressif chez des patients qui, normalement, ne sont pas très affectés par la grippe, des jeunes, notamment des femmes enceintes. Présentation de la bête par le docteur Guy Boivin, titulaire de la chaire en recherche du Canada sur les virus en émergence, au Centre de recherche en infectiologie du Centre hospitalier universitaire de Québec.
Si on parle de l'origine immédiate, c'est un croisement de deux virus influenza qui viennent du porc. Un virus porcin qui circulait aux États-Unis depuis un petit bout de temps, depuis au moins 1997. Un autre qui circulait en Europe et en Asie, en Eurasie. Et il y a eu un croisement de ces deux virus porcins-là. Mais c'est tout à fait intéressant parce que vous avez un virus humain à l'origine, en 1918-19, qui s'est transmis au porc. Par la suite, le virus du porc revient à l'humain. Et il y a eu des cas sporadiques, de toute façon, de transmission de virus de porc à l'humain, même avant 2009, avant la pandémie de 2009. Ça, c'est important parce que ça démontre le fait que le porc, et c'est connu, le porc possède des récepteurs au niveau pulmonaire pour les virus humains et les virus des oiseaux, qu'on appelle les virus aviaires également. Donc, c'est un bon réservoir, le porc, pour être infecté à la fois par des virus humains et des virus aviaires. Et donc, il y a beaucoup de mélanges de segments, de mélanges génétiques qui se produisent chez le porc.
Et celui-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Celui qui nous intéresse, là, par rapport au H1N1 humain standard qui circule tous les ans depuis des années?
Première chose qui est particulière, c'est que ce virus-là a nettement une origine porcine et que ça faisait longtemps qu'un virus, même apparenté, avait circulé chez l'humain. On pense qu'un virus apparenté a déjà circulé chez l'humain. Pourquoi on dit ça? C'est parce que des études ont démontré que les personnes de plus de 65 ans, premièrement, étaient peu affectées par le virus pandémique H1N1 de 2009 et possédaient un certain taux d'anticorps avec une réaction croisée contre ce virus-là, ce qui laisse penser que les personnes plus âgées ont rencontré un virus H1N1 porcin, probablement différent, mais quand même dans leur vie, qui font qu'ils ont développé des anticorps qui les protègent relativement.
Est-ce qu'on a regardé sa génétique ou des parties de gènes qui le rendent particulièrement agressif ou plus agressif que les autres?
Au niveau génétique, on ne sait pas encore pourquoi il est un peu plus agressif que les virus H1N1 humains typiques, saisonniers. Mais les études animales ont montré que si on infecte, que ce soit des souris, des furets, qui sont par ailleurs un bon modèle d'infection pour représenter ce qui se passe chez l'humain, ou même des singes, le virus H1N1 d'origine porcine, il y a une sévérité accrue par rapport au H1N1 humain qu'on connaissait. Quand je dis sévérité accrue, ça veut dire plus de perte de poids, ça veut dire plus de virus retrouvés dans les poumons, ça veut dire de plus de changements au niveau histopathologique là, quand on examine les poumons. Et ça corrèle avec un taux d'hospitalisation puis une mortalité chez les gens qui sont infectés avec le H1N1 porcin qui est un peu plus grand que les gens qui sont infectés avec la grippe saisonnière. Mais c'est quand même nettement moins sévère, puis ça, je tiens à le mentionner, que le virus H1N1 de 1918 ou même le fameux H5N1 d'origine aviaire qui circule en Asie qu'on craignait tant comme cause d'une prochaine pandémie.
C'était le docteur Guy Boivin du Centre hospitalier universitaire de Québec. Alors tout de suite, la nouveauté et la grande contagiosité du virus H1N1 inciteront les autorités de santé publique à préparer une riposte robuste à la pandémie. Et cela avec la seule arme vraiment efficace dont on dispose en prévention, un vaccin. Alors produire ce vaccin sera une véritable course contre la montre, une course qu'on perdra en partie puisque le vaccin n'arrivera qu'en octobre, alors que la deuxième vague de grippe aura déjà commencé. Le Canada ayant choisi de vacciner toute sa population et pas seulement certains groupes à risque, on mènera une campagne de vaccination de masse, campagne dont le succès ne sera pas aussi net qu'on l'espérait. Alors pourquoi? Sans doute à cause d'une méfiance envers la vaccination répandue sur Internet par des personnes opposées au vaccin pour toutes sortes de raisons sans fondement médical, et aussi parce que, heureusement, le virus H1N1 aura finalement frappé beaucoup moins durement qu'on le redoutait, donc les gens ont eu moins peur d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, à la mi-décembre, le virus H1N1 aura causé plus de 8000 hospitalisations au Canada et tué 390 personnes. Et malgré la possibilité d'une nouvelle vague d'infection après les fêtes, seulement 40% des Canadiens auront été vaccinés, le pourcentage pour le Québec étant un peu plus élevé. 53%. Alors c'est encore en 2009 que le gouvernement du Québec annonce l'installation de 15 radars photo prévus dans le cadre de son projet d'implantation d'un système de radars photo à travers tout le Québec. Le but visé, obliger les conducteurs qui ont le pied lourd, je m'adresse à vous Hugues de Roussan, pas pour le pied lourd, mais pour le conducteur, à ralentir et ainsi sauver des vies humaines.
Chaque année, Yannick, en moyenne, 600 personnes perdent la vie sur les routes de la province et l'implantation d'un système de radar photo pourrait permettre d'en sauver une centaine. Cette approche technologique a déjà été adoptée dans d'autres pays, dans 70 pays, et a fait ses preuves. En France, par exemple, les autorités estiment que ce sont 2000 vies qui sont ainsi sauvées chaque année. Le système est implanté au printemps avec une période de grâce de 4 mois, au cours de laquelle les conducteurs fautifs reçoivent des avertissements par la poste. Une fois cette période terminée, plus de pardon, c'est l'amende pour tous ceux qui se font prendre à rouler trop vite dans une zone où se trouve un radar photo. Et ces radars photos ont été installés dans 4 régions, soit Montréal, la Montérégie, Québec et Chaudière-Appalaches.
Alors pourquoi, Hugues, installer des radars photos? On ne pourrait pas se contenter de campagnes de sensibilisation, d'information, non?
En fait, Yannick, ces campagnes ne fonctionnent pas. Il semble bien que la seule chose qui peut amener un conducteur à ralentir, c'est la peur de se faire attraper et surtout la certitude qu'il se fera prendre s'il roule trop vite en passant devant un radar photo. Guy Paquette est directeur de recherche sur la sécurité routière de l'Université Laval.
Ce principe-là est justement au contraire maximisé lorsqu'on se sert du photoradar, parce que là, ce que l'on confirme au conducteur, c'est de lui dire, avec les photoradars, là, cette probabilité, qu'elle soit subjective ou objective, de vous faire pincer si vous excédez la limite de vitesse, elle n'est pas égale, par exemple, à 1% ou à 5% ou à 10%, elle est probable à 100%. Les générations de photoradars des 30 dernières années permettent de prendre à la limite 2 photographies à la seconde. Et elles peuvent le faire, là, ces technologies, même dans le cas d'autoroutes qui sont à 4 voies. Ce qui veut donc dire là, que techniquement parlant, il est impossible à qui que ce soit d'échapper à un photoradar. Si, par exemple, on indique de manière très claire, très évidente, par de la signalisation appropriée, comme c'est le cas en France, en Grande-Bretagne et dans la plupart des pays dans le monde. Si on dit aux gens, attention, le prochain tronçon de route, qui par exemple fait 18 km, est un tronçon jugé très dangereux et il y a de la surveillance automatisée par photoradar, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'à part ceux qui auront le goût de défier le système et qui, après avoir reçu une ou deux premières contraventions par la poste, puis on peut imaginer que ça pourra se faire par courriel dans très peu de temps, il y a très peu de gens qui vont persister dans un comportement qui va leur coûter aussi cher, à la fois en argent, puis évidemment en point d'inaptitude. Maintenant, attention, le photoradar, ce n'est pas une panacée, mais c'est de toutes les interventions que l'on pourrait pratiquer pour essayer d'améliorer à court terme le bilan routier, c'est probablement celle qui offre les meilleures garanties et surtout la plus forte probabilité d'avoir un impact à court terme très important.
C'était Guy Paquette, qui est directeur de recherche sur la sécurité routière à l'Université Laval.
Pour éviter que les citoyens ne se sentent piégés, des panneaux de signalisation sont installés pour signaler la présence d'un radar photo. Et aussi pour protéger la vie privée des citoyens, il ne sera pas possible d'identifier les occupants du véhicule sur les photos que recevront les propriétaires de véhicules. Dernier point, l'argent des amendes et des frais cumulés est versé au Fonds de la sécurité routière qui finance exclusivement des programmes de sécurité routière ou d'aide aux victimes de la route.
20 août, le New England Journal of Medicine publie les résultats de l'étude Naomi sur le traitement des héroïnomanes avec des prescriptions d'héroïne pharmaceutique. Des héroïnomanes au long cours qui avaient déjà suivi plusieurs traitements conventionnels, notamment avec de la méthadone, un substitut de l'héroïne, mais sans succès. Naomi est une étude canadienne réalisée à Montréal et à Vancouver. Les explications de la docteure Suzanne Brissette, chef du service de médecine des toxicomanies au CHUM, le centre hospitalier de l'Université de Montréal.
Tout d'abord, c'est un protocole de recherche et les sujets, après avoir passé à travers un très long processus d'éligibilité pour vérifier que c'était vraiment des usagers chroniques qui s'injectaient et qui avaient déjà essayé des traitements, étaient randomisés, c'est-à-dire alloués au hasard entre deux groupes de traitements, le groupe contrôle qui recevait de la méthadone tel que c'est prescrit au Québec, et l'autre groupe, lui, recevait un traitement de pièces injectables qui, dans la très grande majorité des cas, était de l'héroïne pharmaceutique, bien entendu, qu'il pouvait recevoir jusqu'à 3 fois par jour selon un protocole déjà très strict, très déterminé et sur prescription médicale. Donc, c'est le médecin qui déterminait la dose qui était nécessaire au patient pour être confortable et fonctionnel, pas intoxiqué, fonctionnel.
Alors, les résultats de ça, donc les gens étaient plusieurs centaines, ça se passait à Vancouver, à Montréal d'ailleurs, dans deux villes. Les gens étaient dans le protocole de recherche pendant un an. Résultats donc tels que publiés dans le New England Journal of Medicine.
Alors, les deux principaux résultats, c'était la rétention en traitement. Les gens sont souvent surpris qu'on ait choisi ça comme variable à mesurer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la rétention est un des meilleurs prédicteurs de qu'est-ce qui va se passer après, comment la personne va évoluer. Parce que plus longtemps on les a en traitement et plus intensément on les a en traitement, plus on peut leur offrir tous ces autres services que j'ai mentionnés et
donc l'idée, leur chance. Donc l'idée, c'était de voir est-ce que dans un an, ils vont être encore avec nous exact. Ou si on les aura perdus dans la nature.
Exact. Et dans le groupe qui a reçu de l'héroïne injectable ou des opiacés injectables, il y en a 87,8% qui ont été retenus en traitement, ce qui est déjà un chiffre en toxicomanie qui est vraiment très, très bon, alors qu'il y a seulement 54,1% des personnes qui étaient dans le groupe méthadone qui ont été retenues.
Alors ça, c'était le premier critère de que vous regardiez. Il y avait une deuxième aussi, oui. Une deuxième mesure.
La deuxième mesure, c'était ce qu'on avait défini comme la réponse en traitement et qu'on mesurait principalement par la consommation de drogues illicites et la participation aux activités illégales. Et encore là, il y a une très grande différence entre les deux groupes. Le groupe qui recevait de l'héroïne injectable, à 67%, s'est amélioré de façon très significative sous ces deux aspects-là, soit la consommation de drogues illicites et les activités illégales, comparé à seulement 47,7% dans le groupe qui recevait de la méthadone.
La docteure Suzanne Brissette est chef du service de médecine des toxicomanies au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Pourtant, malgré les résultats très intéressants de Naomi, malgré aussi le fait que les instituts de recherche en santé du Canada voulaient en financer la suite logique, il n'y aura pas de suite à Naomi. Le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux annoncera, au moment même de la publication dans le New England, qu'il ne financera pas le volet clinique de la recherche en question. Toujours en août, la Sud-Africaine Caster Semenya remporte la médaille d'or aux 800 mètres féminins au championnat du monde d'athlétisme à Berlin. Une victoire qui aurait pu en rester là, mais des doutes sur son identité sexuelle déclenchent une controverse.
Oui, Yannick, plusieurs soutiennent que Caster Semenya n'est pas une femme et qu'elle est un homme. Son apparence physique et surtout sa voix sont masculines. Pour en avoir le cœur net, la Fédération internationale d'athlétisme a décidé de soumettre l'athlète d'Afrique du Sud à des tests de féminité. Les résultats de ces tests n'ont pas été officiellement rendus publics, mais selon plusieurs sources, Caster Semenya serait hermaphrodite, donc homme et femme à la fois.
Et ça relance le débat, hein. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Normalement, les femmes ont 2 chromosomes X et les hommes un chromosome X et un Y, mais c'est pas toujours aussi simple que ça apparemment.
Pas si simple. Parfois, des mâles XY présentent des organes génitaux féminins. Dans ce cas, ils ne réagissent pas à la testostérone. D'autres individus ont trois chromosomes, XXY. Ce sont des hommes plus grands, avec des testicules, mais une apparence plus féminine. Il y en a même qui n'ont qu'un seul X. Ce sont alors là des femmes plutôt petites, avec une apparence masculine, et elles sont stériles. Donc, comme on l'a dit, pas si simple que ça.
Non, et ça se complique, hein, parce que le fait de l'identité sexuelle, en fait, c'est pas seulement une affaire de chromosomes.
Il y a aussi une dimension hormonale qui intervient, et aussi une dimension génétique avec des gènes qui sont présents sur des chromosomes non sexuels. Et lorsqu'il y a anomalie à ces niveaux, cela peut modifier le développement sexuel. Il devient alors difficile de savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille, surtout lorsque les organes génitaux sont ambigus, comme c'est le cas pour une naissance sur 10 000. Le docteur Guy Van Vliet est endocrinologue pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal.
La cause la plus fréquente, en fait, est une anomalie au niveau des glandes surrénales, qui peut, chez des petites filles, par ailleurs tout à fait normales, entraîner ce qu'on appelle une masculinisation des organes génitaux externes. Donc la glande surrénale est capable de fabriquer de la testostérone. Normalement, elle n'en fabrique pas beaucoup, mais s'il y a une anomalie à cette glande, elle peut en fabriquer beaucoup plus et ça va donner une masculinisation chez les petites filles.
Et c'est quelque chose qu'on voit dès la naissance?
C'est quelque chose qu'on voit le plus souvent dès la naissance chez les filles, effectivement, parce qu'il y a une anomalie au niveau des organes génitaux externes qui est en général tout à fait évidente à l'examen.
Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme médecin? Qu'est-ce que la médecine peut faire?
Mais il y a des aspects médicaux, des aspects chirurgicaux. Si on reprend l'exemple que je donnais tout à l'heure des petites filles avec l'anomalie surrénalienne, qui est la cause la plus fréquente, encore une fois, d'ambiguïté à la naissance, il y a un traitement médical qui consiste à remplacer les hormones surrénaliennes pour éviter qu'il y ait cette surproduction de testostérone. Ça, c'est l'aspect médical. L'aspect chirurgical, effectivement, est de faire des chirurgies pour que les organes génitaux externes soient conformes avec le sexe dans lequel on va décider d'élever l'enfant.
Est-ce qu'il y a des cas où on a vraiment du mal à choisir entre garçon ou fille?
Encore une fois, si on revient à la situation la plus fréquente, c'est-à-dire la petite fille avec son problème de surrénale qui a entraîné une masculinisation des organes génitaux externes, l'anatomie interne est entièrement féminine, avec un vagin, un utérus, des ovaires, une possibilité de fertilité. Donc il n'y a pas vraiment de discussion parmi les experts sur le fait que dans ces cas-là, quel que soit le degré, la sévérité de la masculinisation des organes génitaux externes, la décision la plus raisonnable est d'élever cet enfant dans le sexe féminin et de faire donc la chirurgie correctrice. Ce n'est pas aussi simple quand on a la situation d'un bébé dont le sexe chromosomique est XY, et dont les organes génitaux sont ambigus parce que, dans ces cas-là, le diagnostic différentiel est beaucoup plus large que juste le problème de surrénal qu'on a chez les petites filles XX. Le problème est beaucoup plus complexe et aussi les décisions, donc, on ne peut pas dire là en blanc ou noir que tous ces cas-là doivent être orientés dans telle ou telle direction.
Guy Van Vliet est endocrinologue pédiatre à Sainte-Justine à Montréal. Il répondait aux questions de Gaëlle Lucia Berdou. Et dans le cas de Caster Semenya, Hugues, qu'est-ce qui va arriver?
Eh bien, elle conserve sa médaille d'or remportée au championnat du monde de Berlin, mais on ne sait pas si elle pourra poursuivre sa carrière internationale, surtout dans le cas où elle serait officiellement déclarée hermaphrodite par les médecins.
Alors, on reste dans le merveilleux monde du sport. Hugues, les Jeux olympiques d'hiver... Vancouver, ça arrive à grands pas, et les prévisions météo prennent une importance capitale.
Cette question des prévisions météorologiques a fait l'objet d'un article dans la revue Actualité. C'est une question importante. De mauvaises prévisions ou une mauvaise interprétation des prévisions, cela peut faire la différence entre un podium, donc une médaille, et une quatrième place, la place qu'aucun athlète ne veut obtenir. Pour les sports de glace qui se déroulent à l'intérieur, ça n'a aucune importance, mais pour les sports de neige comme le ski, le biathlon ou encore le saut à ski, c'est primordial.
Et c'est Environnement Canada qui a reçu le mandat de faire des prévisions météo pour les Jeux olympiques.
Environnement Canada utilise trois programmes différents pour réaliser les prévisions les plus fiables possibles. Un pour le moyen terme, soit plusieurs jours. Un autre pour le court terme, là on parle d'une journée, et un troisième pour le très court terme, on parle de quelques heures, voire même de quelques minutes. La fiabilité des prévisions, c'est le nerf de la guerre, Yannick. Et malgré les progrès réalisés pour construire des modèles de prévisions de plus en plus fiables, ce n'est pas toujours évident, surtout en montagne. Gilbert Brunet est le directeur de la division de recherche en météorologie à Environnement Canada.
c'est en fait le défi. En milieu de montagne, les prévisions sont très difficiles. Mais en même temps, le fait que la montagne est là, elle force des événements. Je m'explique. Par exemple, un vent arriverait de l'ouest sur la montagne et elle est chargée d'humidité. Cette masse d'air est obligée de monter en altitude. Elle se refroidit et elle va précipiter. Donc, il est très clair que la plupart du temps, un vent très humide qui frappe une montagne, comme à Whistler, quand l'air va monter le long de la montagne, elle va faire tomber de la neige. On sait très bien qu'il va se passer un événement à cet endroit-là. Mais par contre, il faut bien représenter cette montagne dans les modèles. Et c'est pour ça que le modèle le plus raffiné que nous allons utiliser a une résolution spatiale de 100 mètres. Donc, les grilles, les points de grille, la définition, ou si vous voulez, les pixels de la représentation de nos montagnes dans les modèles est aux 100 mètres. C'est quand même pas extrêmement précis relativement à une personne, mais suffisant pour pouvoir faire une bonne prévision des précipitations de neige, par exemple, sur Whistler pendant les Jeux olympiques.
Et c'est quand même pas mal, 100 mètres.
Oui, c'est pas mal. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux en ce moment. Tout ça dépend effectivement aussi des outils technologiques que nous avons pour faire ces prévisions et faire les calculs, parce que ce sont des modèles, ce sont des logiciels qui roulent sur des ordinateurs. En fait, qui roulent sur les ordinateurs les plus puissants au monde. En ce moment, l'ordinateur d'Environnement Canada est l'ordinateur le plus puissant au Canada, qui est opérationnel. Et ça fait beaucoup de calculs, des millions et des millions de calculs à la seconde pour pouvoir justement faire les prévisions correctement pour un tel site olympique. Le grand défi aussi à Whistler, ça va être de prévoir très bien les différentes conditions de météorologiques à différentes altitudes parce que vous savez, parfois il peut neiger en haut de la montagne et pleuvoir dans le fond de la vallée, ce qui est assez spécial pour le site olympique. Donc les équipes olympiques nous font beaucoup de pression pour qu'on puisse donner des bonnes prévisions de cette variété dans la verticale.
Alors, c'était Gilbert Brunet d'Environnement Canada. Alors, ces prévisions, Hugues, est-ce qu'elles sont les mêmes pour tout le monde?
Non, Yannick. Environnement Canada fournit un service de prévision à la carte selon les sports, l'endroit ou la journée. Et ces prévisions peuvent être même différentes pour les organisateurs, les entraîneurs et les athlètes. Donc, chaque sport, chaque site a ses propres besoins. Exemple, la visibilité est un facteur primordial pour l'épreuve de descente à cause de la vitesse que peuvent atteindre les skieurs. Pour le saut à ski, c'est plutôt le vent qui est important, alors que pour le surf des neiges, l'épreuve de demi-lune, c'est plutôt la neige.
Et tant qu'à parler météo, on peut dire que l'avenir de la NASA n'est pas au beau fixe, hein, Sophie André. En gros, la NASA n'a pas les moyens de ses ambitions, dit un comité d'experts.
Le comité présidé par Norman Augustine avait été mandaté par le président Barack Obama pour évaluer de façon indépendante les programmes d'exploration spatiale habitée. Les premières lignes du rapport déposé à l'automne donnent le ton. Le programme américain des vols habités semble sur une trajectoire non viable, peut-on lire. Avec les budgets actuellement prévus, il ne sera pas possible de conclure élégamment l'aventure des navettes spatiales et de la Station spatiale internationale. En plus de planifier un retour vers la Lune et de préparer des missions vers Mars, il faut choisir où il faut plus d'argent. Ed Crawley, professeur en astronautique au Massachusetts Institute of Technology, est l'un des signataires du rapport.
Je crois que ce que nous avons dit de plus important au comité, c'est que nous devons aligner nos priorités avec les ressources disponibles. Qu'il n'est pas réaliste qu'avec les réductions de budget qui ont été annoncées cette année, la NASA puisse aller sur la Lune puis sur Mars. J'espère que nous avons été persuasifs en soutenant qu'avec une augmentation modeste de 15 % de son budget, la NASA aurait un programme dont elle pourrait être fière.
Ed Crawley, co-auteur du rapport du comité Augustine sur l'avenir des vols habités aux États-Unis.
Parmi les suggestions du rapport, une prolongation du programme des navettes qui pourrait aller jusqu'en 2015, une extension de la vie utile de la station spatiale jusqu'en 2020. Mais plus radicalement, le rapport propose de confier à l'industrie privée certaines activités plus routinières du transport spatial, comme les navettes vers la station et éventuellement même vers la Lune. Pour l'astrophysicien Robert Lamontagne, l'avenir des vols habités, le choix de les financer, ça relève d'un choix qui voit plus grand que la NASA elle-même.
On comprend parfaitement l'idée de faire plus avec moins. Et c'est vrai que dans certains domaines, on peut faire plus avec moins. Mais à partir d'un certain moment, avec moins, on fait nécessairement moins. Et donc, il faut abandonner des idées ou même des rêves d'exploration habitée si on ne continue pas à augmenter le financement pour le maintenir à un niveau adéquat. Si on n'a pas ça, si on n'a pas un but qui nous fait rêver, un objectif qui nous fait rêver, c'est malheureux, mais on a moins de gens qui font de la science et toute la société en paie le prix, finalement.
C'était l'astrophysicien Robert Lamontagne de l'Université de Montréal.
Et on attend la réaction du président américain au rapport Augustine au début de 2010.
Ici Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patients, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
Octobre. Avec l'automne arrive encore une fois la saison où les éléments se déchaînent. À mentionner cette année l'Asie, où les catastrophes naturelles s'alignent les unes après les autres. Chantal de Srivastava, les ravages se font bien sûr sentir partout.
Oui, alors qu'on est déjà au beau milieu de la saison des typhons, un séisme de 7,6 sur l'échelle de Richter fait 1 000 000 de morts en Indonésie. 24 heures plus tôt, la terre avait déjà tremblé dans le Pacifique Sud, provoquant un tsunami mortel pour au moins 150 personnes dans les îles Samoa. Cela étant dit, Yannick, ça aurait pu être bien pire. C'est que depuis le tsunami de Sumatra en 2004, une quarantaine de capteurs sont dorénavant installés dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique. Des capteurs qui permettent de donner l'alerte, comme l'explique ici Aimé Local, professeur de sismologie à l'Université Northwestern à Evanston, en Illinois.
Je pense que ça a assez bien fonctionné cette fois-ci parce que sur la base de ce qu'on a appris du séisme d'une part et de cette technologie qu'on appelle DART en américain, d'autre part, eh bien, on a mis sur le pied de garde les populations de Hawaï et surtout la défense civile à Hawaï. Ils savaient qu'il pouvait y avoir une alerte au tsunami. Et puis après, quand on a eu ces données, quand on les a eu analysées, finalement, on a levé l'alerte à Hawaï où dans le port, je crois, il y a eu 30 cm. Bon, c'est-à-dire que ça n'a pas fait de dégâts. Donc, ça a assez bien fonctionné pour ce qui est de Hawaï et des côtes lointaines comme la Californie et même sans doute la Colombie-Britannique.
Donc, ce que je comprends, M. Ocal, c'est qu'on a quand même fait des améliorations substantielles depuis 2004 en déployant davantage de ces capteurs. Est-ce qu'on a vraiment un réseau intégré de surveillance planétaire d'alerte aux tsunamis?
Dans le Pacifique, oui. Dans le Pacifique, ça marche très bien parce que il y a deux centres américains qui ont une responsabilité internationale d'ailleurs. L'un à Hawaï, l'autre en Alaska. Il y a des Japonais aussi et il y a un centre à Tahiti qui ont une grande tradition. Ça marche depuis assez longtemps. Il y a un système qui marche assez bien dans le Pacifique. Dans l'océan Indien, on a commencé à essayer de bâtir un système, mais on se heurte d'ailleurs à une certaine rivalité de tous les pays de l'océan Indien. Il est très très difficile de se mettre d'accord sur qui aura la responsabilité à l'échelle de l'océan entier. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, c'est encore le centre de Hawaï qui est responsable des prédictions dans l'océan Indien. Ce qu'il peut faire d'ailleurs très bien.
Monsieur Ocal, pour un professeur de sismologie qui étudie très sérieusement les tsunamis, des événements comme celui de cette semaine, ça représente un intérêt aussi, un champ d'études particulièrement prolifique pour vous?
Oui, c'est effectivement délicat à dire, mais ces catastrophes sont pour nous les bases de notre recherche. Chaque fois que nous avons un fort séisme et un gros tsunami, malheureusement, il fait des victimes, mais pour nous, c'est une source de savoir. On va apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois.
Comme quoi, par exemple, dans ce cas-ci, Samoa, qu'est-ce qui vous intéresse?
Dans ce cas précis, écoutez, comme je suis sur le point d'y aller, je ne peux pas savoir ce que je vais y trouver, parce qu'on trouve toujours quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, qu'il faut expliquer. Mais ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de, peut-être du point de vue sismologique, même de comprendre ce séisme qui est une déchirure de la plaque par opposition à l'enfoncement de la plaque. Elle s'est déchirée. Et donc, c'est un mécanisme qui est un peu différent. Est-ce qu'on peut... le grand problème qui nous est posé, c'est de savoir si on peut comprendre la fréquence à laquelle ça va se reproduire. Est-ce que des séismes comme ça, ça va se reproduire tous les 30 ans, tous les 100 ans, tous les 300 ans? On ne sait pas. Et c'est le genre d'étude qui m'intéresserait, moi, personnellement.
Émile Ocal est professeur de sismologie au département des sciences géologiques à l'Université Northwestern, spécialiste des tsunamis. Alors, toujours à l'automne, la compagnie GM, qui est aux prises avec d'énormes problèmes de restructuration et de financement, GM donc annonce l'arrivée sur le marché en 2011 de la Volt, un modèle entièrement électrique. Hugues Roussan.
Yannick, il ne se passe pas une semaine ou presque sans qu'une nouvelle ne soit faite à propos d'une nouvelle voiture, d'un nouveau modèle entièrement électrique ou hybride, ou sans qu'on apprenne qu'une nouvelle percée technologique va améliorer leur efficacité et leur performance. Toyota a tenu le haut du pavé pendant 12 ans et a vendu plus de 2 millions de voitures hybrides. Mais maintenant, Toyota n'est plus seul. Tous les constructeurs de voitures se sont lancés dans la course, ce qui provoque un phénomène d'émulation et d'accélération, à savoir celui qui va présenter le modèle le plus vert et le plus efficace pour s'emparer du marché.
Mais c'est un marché quand même qui n'en est encore qu'à ses balbutiements.
Cela ne fait que commencer. Certains prédisent que la voiture électrique représentera 30% du marché mondial en 2020. Cela veut dire 300 millions de voitures. La question est de savoir quelle technologie sera celle qui réussira à s'imposer. Laquelle sera privilégiée par les gouvernements et les constructeurs? Et il semble bien que ce sera la voiture hybride rechargeable. Pourquoi? Eh bien, c'est la grosseur des batteries qui sont moins imposantes et moins lourdes dans les voitures hybrides que dans les voitures entièrement électriques. Pierre Langlois est physicien et il est l'auteur du livre « Rouler sans pétrole ».
On a avantage à prendre une batterie la plus petite possible. Il y a une autre raison aussi très importante pourquoi il faut faire ça. C'est le lithium, parce que les batteries au lithium, il ne faut pas en prendre trop du lithium, parce que les réserves mondiales, c'est 11 millions de tonnes. Et si on faisait des batteries à 400 km d'autonomie, toutes électriques, avec un milliard de véhicules, ce qu'on va avoir besoin là, d'ici 25 ans environ, bien là, on dépasse les capacités de fournir le lithium de la planète, on dépasse les réserves de lithium de la planète. Ce qu'il faut rechercher, c'est la plus petite batterie possible. D'ailleurs, une batterie de 800 kg, quand vous traînez ça, ça réduit les performances de votre véhicule. Il va consommer plus d'énergie. Il va être, donc, ça n'a pas de sens. Surtout que vous allez utiliser la capacité de 400 km de votre batterie, disons, occasionnellement seulement, puisque 80 % des kilomètres que vous parcourez tous les jours est en bas de 100 km. C'est une petite batterie qui est dans une hybride rechargeable, donc de 50 km ou jusqu'à 100 km, selon les besoins. Et lorsqu'on veut faire un voyage qui dépasse cette autonomie-là, bien, on utilise le carburant et là, on a accès à tout le réseau de distribution de carburant qui est déjà en place. Et ça, c'est un autre facteur très important, c'est qu'on n'a pas à investir dans les infrastructures avec une hybride rechargeable. Tout est déjà en place. Autrement, ça coûte très cher.
Pierre Langlois est auteur du livre « Rouler sans pétrole ». Est-ce que ça veut dire, Hugues, que la voiture entièrement électrique est, disons, morte avant qu'elle n'ait une chance de se faire une place?
Non, il y a un marché pour les voitures entièrement électriques, mais actuellement, elles ont une autonomie limitée, une centaine de kilomètres au plus, et ce sont des voitures à vocation urbaine. Il faudrait améliorer leur efficacité, et cela pourrait se faire en ajoutant des supercondensateurs. C'est une technologie qui permet de fournir rapidement de l'énergie, par exemple au démarrage ou au moment de l'accélération, ce qui fait défaut actuellement. Il faudrait aussi trouver un moyen de multiplier par 5 le niveau d'énergie contenu dans une batterie et de diminuer son coût par 10, sans oublier qu'il faut absolument diminuer leur taille. Sans ces améliorations, la voiture entièrement électrique pourra difficilement concurrencer la voiture hybride.
Donc la voiture entièrement électrique ou hybride, hein? Ça, c'est là pour rester, Hugues.
C'est là pour rester, surtout qu'avec l'évolution rapide de la technologie, les prix vont baisser. Ce qui va aider aussi, c'est que la production de pétrole va diminuer de 30 % d'ici 2030, ce qui veut dire aussi que le prix du litre d'essence ira en sens inverse. Lui, il va grimper.
Merci, Hugues.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Un enfant vient de mourir de la faim.
C'est à la mi-novembre que Jacques Diouf, directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, lance cet appel à l'aide. 1 milliard de personnes souffrent de la faim.
Et c'est à l'invitation de Jacques Diouf, Yannick, que se tient à Rome ce sommet mondial pour la sécurité alimentaire sur le thème « Comment nourrir le monde en 2050 ». Les experts sont formels, nous serons 9 milliards d'humains sur la planète d'ici 40 ans et pour nourrir tout ce beau monde, il faudra accroître les rendements agricoles de 70 %. À l'issue du sommet, une déclaration unanime réitère l'engagement de diminuer de moitié la faim dans le monde d'ici 2015. Sauf qu'hormis le premier ministre italien Silvio Berlusconi, qui est l'hôte de la rencontre, les chefs d'État des pays du G8 brillent par leur absence. Et ce n'est là qu'une des lacunes identifiées par Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation.
Il est clair que la déclaration est décevante sur une série de points. D'abord, et c'est la lacune la plus remarquable, elle ne contient pas d'engagement chiffré, elle ne contient pas de calendrier précis qui permettent de placer les États face à leurs obligations. Par ailleurs, il y a toute une série de sujets qui ont été laissés de côté, pratiquement tabous, ou bien simplement évoqué pour signaler que l'on va faire des études complémentaires pour garder la question à l'agenda, mais sans vraiment qu'on ait abordé les questions les plus difficiles.
De votre point de vue, M. de Schutter, qu'est-ce qu'on aurait dû inclure dans cette déclaration et qu'on a passé sous silence parce que c'est tabou, comme le dites-vous?
Je crois qu'il y a trois questions qui, très clairement, sont problématiques aujourd'hui et permettent de prédire, sans grand risque de se tromper, que nous allons vers des nouvelles crises à l'avenir. Et ces trois questions qui n'ont pas été traitées et qui nous placent face à cette vulnérabilité, ce sont d'abord la question des argocarburants qui a été au fond le déclencheur de la crise de 2007-2008. C'est notamment la spéculation qui a démarré au départ de la production d'agrocarburants. C'est deuxièmement la volatilité des prix sur les marchés agricoles pour laquelle on n'a pas vraiment de solution et qu'on a refusé vraiment de traiter, bien que le problème soit évoqué. Et troisième lacune, c'est ce nouveau monopoly vers des terres arables dans les pays en développement que les États de plus en plus cherchent à s'approprier ou à louer pour des longues périodes pour garantir leur sécurité alimentaire. Cette course vers l'accaparement de terres qui concerne aujourd'hui près de 30 millions d'hectares, c'est-à-dire une fois et demie la surface arable de la France, par exemple, c'est véritablement un phénomène qui se développe à très très grande vitesse et qui pose beaucoup de problèmes pour les communautés locales qui sont dans les pays qui sont les cibles de ces achats massifs de terres.
Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Alors, parmi les participants au sommet en question, Chantal, il y avait aussi des paysans.
Des gens comme le Sénégalais Mamadou Sissoko du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Il lance un cri du cœur, Yannick.
On n'a pas honte de vivre dans des villages qui n'ont pas de lumière. On n'a pas honte de vivre dans des villages en utilisant l'eau des puits. Nous n'avons pas honte de ne pas avoir des pistes solides. Nous n'avons pas honte de ne pas avoir des universités dans les villes. Mais nous avons honte d'avoir faim. Parce que un peuple qui a faim, c'est un peuple qui n'avance pas.
C'est effectivement ce qu'on appelle un cri du cœur. Mamadou Sissoko, un paysan du Sénégal rencontré lors du sommet mondial sur la sécurité alimentaire à Rome en novembre dernier. Et pour conclure, toujours avec vous Chantal, cette revue de l'année 2009, eh bien, il y a un grand thème qui aura fait beaucoup d'encre, et au moins de l'encre, tout au long de l'année. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit des changements climatique.
Un dossier qui, évidemment, culmine en décembre à Copenhague avec cette 15e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Mais au-delà des discussions politiques qui ne sont pas toujours faciles lorsqu'on aborde l'après-Kyoto, Yannick, une certitude demeure, n'en déplaise aux sceptiques du climat. La planète se réchauffe et le consensus scientifique est on ne peut plus clair quant aux causes de ce réchauffement. C'est la faute aux gaz à effet de serre liés aux activités humaines.
Et tout au long de 2009, d'ailleurs, les scientifiques auront continué à accumuler études, et données pour prouver leur dire.
Et ce tandis que les politiciens s'entendent pour limiter à 2 degrés Celsius la hausse des températures d'ici la fin du siècle, sauf que des scientifiques commencent eux à se demander si l'augmentation réelle ne sera pas beaucoup plus élevée. Il en est question lors de la conférence 4 degrees and beyond qui se tient à Oxford. Hazel Thornton est chercheure senior en changement climatique au Centre Hadley de recherche sur le climat en Grande-Bretagne. Elle nous parle de certains des résultats présentés lors de cette conférence.
Ce travail diffère des études précédentes en ce sens que nous nous sommes concentrés sur les scénarios d'émissions les plus élevés et on avait utilisé de nombreux modèles climatiques, d'une part les modèles de Hadley Center, mais aussi les modèles d'autres centres de recherche. Et nous avons examiné quand les différents modèles dépassent un réchauffement de 4 degrés pour différents scénarios. Les résultats de ces études ont montré que la meilleure estimation de ce date de 4 degrés est vers les années 2070 et 2080. Mais si l'atmosphère est particulièrement sensible à une augmentation de gaz à effet de serre, le 4 degrés pourrait être dépassé en les années 2060.
C'était Hazel Thornton du Centre Hadley de recherche sur le climat. Ça, c'est en Grande-Bretagne. C'est justement des chercheurs britanniques, hein, Chantal, qui, vers la fin de 2009, sont dans la ligne de mire des sceptiques, des climato-sceptiques, avec cette fameuse histoire du Climate Gate.
Alors qu'un serveur du Climate Research Unit de l'Université East Anglia au Royaume-Uni est piraté, plus de 1000 courriels se retrouvent ainsi sur le web. Certains d'entre eux sont cités de manière à jeter le discrédit, Yannick, sur la science du climat. Une situation qui peine au plus haut point Corinne Le Quéré, membre du GIEC et professeure à l'Université East Anglia, où ses courriels ont été volés.
Il y a une grosse déception qui s'installe parce que c'est clair que si on examine les courriels de n'importe qui pendant 13 ans, 13 années de courriels, on va trouver des choses que les scientifiques ont écrites à la va-vite, sans bien réfléchir, qui ont été destinées à des personnes qui connaissent déjà le contexte scientifique. Maintenant, on prend ces courriels et on les présente hors contexte pour essayer de prouver quelque chose qui n'a jamais été dit dans un article scientifique à revue de littérature. C'est décevant. Moi, je pense que si les sceptiques en sont là, en sont à voler de l'information aux scientifiques pour essayer de les discréditer à moins d'un mois de la conférence la plus importante peut-être pour l'histoire de l'humanité. S'ils en sont là, c'est qu'ils doivent vraiment pas avoir grand-chose à dire.
Corinne Le Quéré est membre du GIEC et professeure à l'Université East Anglia qui commentait donc le Climate Gate et qui fait partie également de ce groupe qui a signé le fameux diagnostic de Copenhague.
Ça, c'est un document, Yannick, qui, à quelques jours de la rencontre de Copenhague, justement, fait le point sur l'état des connaissances en matière de climat. À nouveau, Corinne Le Quéré.
Il y a plusieurs aspects des changements climatiques qui se trouvent à être à l'échelle supérieure des projections, voire même dépassant les projections du GIEC sur les observations récentes. Par exemple, le déclin de la glace de l'Arctique, c'est le plus frappant, où la glace de l'Arctique en été, donc à son minimum en septembre, est maintenant 40% seulement de sa couverture il y a une trentaine d'années, et aucun des modèles ne reproduit une fonte de glace qui est aussi grande que celle-ci. Pareillement, encore au niveau de la fonte des glaces, Les glaciers, autant au Groenland qu'en Antarctique, fondent à une vitesse plus rapide que prévu ou à l'échelle supérieure, particulièrement en Antarctique où on avait considéré que l'Antarctique, en fait, gagnait de la masse, alors que maintenant, les dernières mesures démontrent que l'Antarctique perd effectivement de la masse à cause du réchauffement.
Et il n'y a pas que les scientifiques, hein, qui blâment les gaz à effet de serre. Aux États-Unis, la grande patronne de l'Agence de protection de l'environnement fait aussi une déclaration très remarquée, Chantal.
Au premier jour de la conférence de Copenhague, Lisa Jackson dit, et je cite, « La quantité de gaz à effet de serre produit par l'activité humaine augmente plus vite que jamais, ce qui affecte notre environnement et nuit à notre santé. » Un constat qui ne peut laisser personne indifférent, selon l'épidémiologiste Norman King de la Direction de la santé publique de Montréal.
On n'est pas dans un domaine d'hypothèse qui dit, par principe de précaution, il faut agir au cas où que la situation est mauvaise. C'est pas ça, là. Les preuves sont faites. Le GIEC a conclu de façon très ferme là-dessus. Environmental Protection Agency aux États-Unis considère maintenant que les gaz à effet de serre constituent un problème pour la santé. Pas dans le sens d'un contaminant habituel où je respire un contaminant, je peux être malade. C'est plus en raison de leur accumulation qui a un impact sur l'équilibre climatique de la Terre. Et cet équilibre climatique ou le dérangement de l'équilibre est associé à plusieurs impacts sur la santé. C'est pas juste un enjeu bien qu'important de, mettons, de glaciers qui vont fondre, là. C'est déjà ça, c'est important, mais ça va beaucoup plus loin que ça au niveau de la santé des gens, des citoyens canadiens et des citoyens de partout à travers le monde. Et on souhaiterait que nos représentants gouvernementaux donnent un message clair qu'ils veulent agir aussi.
Alors, c'est sur ces paroles remplies de sagesse hein, de l'épidémiologiste Norman King de la Direction de la Santé publique de Montréal que se termine notre revue de l'année 2009. Merci à vous, Chantal. Merci à vous, Sophie-André. Merci à vous aussi, Hugues. Et c'est la fin de cette dernière émission de l'année 2009, une émission réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Alexandre Bédard, journaliste Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan, Chantal Srivastava et Lily Marin au site Internet. Alors des merci tout spéciaux à des gens qui nous ont aidés toute l'année à produire cette émission. Alors à Montréal, aux archives sonores, Stéphane Gourde, au service technique, Caroline Katchoyan et ses collègues, ainsi que Louise Poupard, Roch Garneau, Sylvain Gaspé et Yves Sicard. À la discothèque, Marie-Paul Beaulieu et Julie Mekeb. À Paris, Gabriel Dejazet et Charles Trahan. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne fin d'année 2009. Et avec toute l'équipe, je vous souhaite une excellente et bonne année 2010. Voilà, c'est pas beau ça, madame. Hein? Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée, une bonne semaine. Et à la semaine prochaine pour une autre édition des Années Lumière. Au revoir.